Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, on va continuer notre petite série sur les arguments de Catherine Vidal, les arguments qu'elle avance donc dans sa, notamment dans sa conférence TED, pour nous convaincre qu'il n'y a aucune différence, ou alors uniquement culturelle, aucune différence cérébrale ou psychologique de compétences entre hommes et femmes. Donc on passe ces arguments un par un, donc on a passé beaucoup de temps sur le premier argument, on va aller un peu plus vite aujourd'hui, ces arguments un par un pour les passer au crible de la raison, au crible de la zététique, de la méthode zététique. Aujourd'hui donc, nous allons parler de son deuxième argument qu'on va écouter très bientôt, mais avant, quelques petites précisions que je crois il faut absolument apporter, même si j'avais pris la précaution de faire une introduction un peu longue la dernière fois pour bien mettre à plat différents problèmes éthiques, différents problèmes moraux qui peuvent se poser dans ce genre de questions. Il me reste encore quelques petites choses à vous dire, donc je vais dire ici tout de suite avant d'écouter Catherine Vidal. Deux petites précisions donc avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet. Les deux d'ailleurs renvoient à des articles que vous trouverez sur le blog de Scepticisme Scientifique. Deux articles qui sont classés dans la rubrique des généralités ou problèmes éthiques, mais qui ont été toutefois publiés dans des revues scientifiques très prestigieuses, tous les deux. Première remarque donc qu'on trouvera développée dans l'article paru dans Nature et publié par Valiant à propos des différences et des ressemblances entre hommes et femmes. On en reparlera d'ailleurs un peu plus tard parce que c'est un des arguments de Catherine Vidal, donc on en reparlera beaucoup plus en détail un peu plus tard. Mais enfin déjà, une remarque qu'il faut quand même garder à l'esprit, hein, toujours, il y a beaucoup plus de ressemblances que de dissemblances entre hommes et femmes et puis généralement entre les humains. Ce qui est frappant, si on essaye de prendre un peu de recul, c'est plutôt la ressemblance entre les humains que les dissemblances entre les humains. Ceci étant, la grande partie des psychologues étudie, et moi quand je fais des recherches en psychologie, c'est aussi dans cette optique-là, hein, ce qu'on étudie, c'est essentiellement ce qu'il y a de commun à tous les humains, qu'est-ce qu'il y a de général, sauf cas pathologique peut-être, qu'est-ce qu'on retrouve chez tout le monde dans le raisonnement, dans la mémoire, dans le langage, etc. Mais il y a aussi une partie de la psychologie qui a son intérêt propre et qui s'intéresse plus spécifiquement, au contraire, aux différences, ce qu'on appelle la psychologie différentielle. Voilà, donc le fait que la plupart des compétences, la plupart des traits de caractère qu'on peut retrouver ou des comportements qu'on peut retrouver chez les humains soient très semblables chez les hommes et les femmes, par exemple. Hein, mais en psychologie différentielle, évidemment, il ne s'agit pas seulement d'étudier les différences hommes-femmes, on étudie des différences en fonction du tempérament, en fonction de la personnalité, en fonction du contexte, etc. Tout ça, ça ne dispense pas d'aller chercher aussi si, malgré tout, au-delà de ces grandes ressemblances, il n'y a pas quelques différences. Voilà, donc des précisions là-dessus, mais le thème, le message général, disons, de l'article de Nature publié par Valiant en 2011, c'est que malgré tout, même si on trouve des différences, eh bien quand même, ce qui est surtout frappant, c'est la ressemblance psychologique et cérébrale entre hommes et femmes. Et puis deuxième remarque qu'il faut absolument avoir fait aussi et garder à l'esprit, c'est celle qui est développée par Elliott toujours en 2011 dans une revue. Dans un article paru dans la revue Neurone, où Elliott explique les risques qu'il peut y avoir, pas au niveau scientifique, où on est d'accord, mais dans la diffusion ensuite des connaissances scientifiques, des risques qu'il peut y avoir suite aux découvertes de différences entre hommes et femmes. Alors il donne plein d'exemples très concrets, où des découvertes scientifiques qui mettent en évidence des différences importantes scientifiquement, hein, qui ont leur intérêt, mais qui malgré tout restent assez faibles, et surtout dont on ne peut rien tirer de conséquences politiques ou quoi, sont ensuite exagérées, déformées, donnent des versions complètement absurdes. Donc il cite par exemple, si je me souviens bien, une publication dans une revue grand public, où on affirme que les hommes ont 6 fois plus de neurones que les femmes, ou quelque chose comme ça. Moi je vous avais donné l'exemple aussi de cette idée que les femmes parlent 4 fois plus que les hommes parce qu'elles sont plus bavardes, ce qui est aussi complètement absurde. On ne sait pas trop comment ça se déforme à ce point-là, Mais effectivement, il a des exemples, il donne des exemples, et on voit que bien souvent les résultats scientifiques qui montrent une différence sont mal interprétés, exagérés, déformés, et peuvent ensuite être utilisés à des fins néfastes. Alors nous, on est très raisonnable, bien sûr, à scepticisme scientifique, et donc on ne va pas faire des interprétations comme ça un peu absurdes, on ne va pas exagérer les résultats, on veut simplement connaître la vérité, et on s'arrête là. Donc effectivement, ceux qui disent attention, il y a peut-être un danger social dans toutes ces études de différence homme-femme, ont effectivement des arguments. Voilà. Mais alors là, c'est une question d'opinion, mais moi je considère que la recherche de la vérité ne doit pas être entravée par des considérations de ce type. Maintenant, c'est tout à fait discutable, il s'agit seulement ici d'une opinion. Voilà, on va continuer donc, en tout cas à discuter, puisque Catherine Vidal a lancé le débat, hein, si on peut dire. Entre nous. Donc on va continuer à regarder la vérité en face, simplement en scrutant les différents arguments de Catherine Vidal. Et aujourd'hui donc, le deuxième argument qui concerne le corps calleux. On écoute Catherine Vidal.
Alors, autre idée reçue. Les femmes sont douées pour faire plusieurs choses à la fois, car la communication entre les hémisphères de leur cerveau est plus développée que chez les hommes. On sait bien, elles sont multitâches. Cette idée vient d'une étude qui a été publiée en 1882 sur 20 cerveaux conservés dans le formol et qui montrait que le corps calleux, c'est-à-dire ce qui est entouré de rouge, c'est-à-dire un faisceau de fibres qui relie les deux hémisphères cérébraux, ce corps calleux était plus épais chez les femmes que chez les hommes, d'où peut-être une meilleure communication. Or, depuis 1982, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de technologies nouvelles sont arrivées, et en particulier les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale comme l'IRM, qui enfin désormais permettent de réaliser un rêve, c'est-à-dire d'étudier un cerveau vivant et non plus un cerveau dans le formol. Et si on rassemble l'ensemble des études faites sur le corps calleux depuis que l'IRM est arrivé, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans l'épaisseur du corps
calleux. Voilà,
calleux.
Donc ce deuxième argument, c'est celui du corps calleux que Catherine Vidal avance. Alors, il y a des raisons de parler de ça parce qu'effectivement, il y a une grande littérature sur l'épaisseur du corps calleux ou la longueur ou l'air du corps calleux. Et sur les différences hommes-femmes concernant ce corps calleux. Donc, oui, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut aborder. Elle ne l'a pas choisi par hasard. On va voir qu'elle l'a doublement pas choisi par hasard, hein. D'abord, c'est un thème effectivement qui a été beaucoup discuté, mais aussi c'est un des thèmes qui a été beaucoup controversé. Alors, l'histoire que nous raconte Catherine Vidal est pas complètement fausse, mais elle est extrêmement simplifiée. Vraiment très, très simplifiée. On va voir ça tout de suite. D'abord, effectivement, ça commence bien en 1982 avec une publication dans Science de Delacoste, Utamzing et Holloway, donc qui publie un article montrant une différence, affirmant en tout cas une différence entre hommes et femmes dans l'épaisseur du corps calleux. La suite est un peu différente de ce que nous retrace Catherine Vidal, hein. D'abord, les méthodes d'IRM ne sont pas plus fiables que les méthodes utilisées dans le premier article, au contraire. On a une mesure plus précise en ouvrant le cerveau d'un cadavre, hein, malheureusement, qu'en le mesurant avec l'imagerie cérébrale. Donc les méthodes utilisées après ne sont pas mieux, hein, et on ne veut pas trouver des choses plus fiables, en tout cas. Mais surtout, ce qui est, ça, c'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est que Catherine Vidal a l'air de nous dire, on a cru que le corps calleux était plus épais, puis après, on s'est aperçu que c'était faux, point. Et fin de l'histoire. Or, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. En réalité, depuis 1982 et jusqu'encore aujourd'hui, il y a une véritable controverse scientifique sur cette question du corps calleux. Et on va voir pourquoi il peut y avoir une controverse, parce que c'est sur des détails techniques que ça se joue un petit peu. Et aujourd'hui, la plupart des chercheurs, apparemment, hein, qui travaillent sur ce sujet, préfèrent ne pas parler du corps calleux parce que c'est pas quelque chose de bien établi, hein, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà. Mais donc, ce que raconte, hein, Catherine Vidal, on a cru que l'épaisseur du corps calleux permettait de différencier hommes et femmes. Et puis, dès qu'on a eu des méthodes suffisamment sophistiquées, on s'est aperçu que c'était faux, ne correspond absolument pas à la réalité, à l'histoire scientifique qui se déroule depuis 1982. Je vais détailler un petit peu les détails et les raisons pour lesquelles il y a une controverse, mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc, en 82, il y a cette publication qui annonce une différence, et puis ensuite, il y a une grande controverse qui va continué jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous citer quelques articles et vous pouvez regarder sur le site également. Il y a des articles publiés en 2013. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose complètement éteint, qui affirme encore que les femmes ont un corps calleux plus épais que les hommes, avec de nouvelles démonstrations expérimentales. Et vous avez aussi des articles en 2013 qui disent que c'est faux, avec d'autres arguments. Donc j'ai développé un tout petit peu ça. Mais l'histoire de Catherine Vidal est très largement simplifiée, en tout cas. Hein, même si sur le fond, on peut dire qu'elle a raison et qu'on a cru à un moment que l'épaisseur du corps calleux était un vrai caractère qui différenciait hommes et femmes. Et puis finalement, maintenant, c'est plutôt controversé, on ne sait pas trop, quoi. Donc on ne va pas se fier à ça pour dire qu'il y a une différence anatomique entre hommes et femmes. Alors comment il peut y avoir une controverse sur un sujet a priori aussi simple, hein, puisqu'il suffit de mesurer, de prendre un double décimètre sur un écran peut-être pour mesurer une épaisseur, ça paraît assez étrange. En réalité, c'est pas aussi simple que ça, parce que le corps calleux, ça, c'est un faisceau de fibres donc, qui relie les deux hémisphères cérébraux, et qui a une forme un peu bizarre. Alors il y a une partie à l'arrière, le splénum qui est un peu rebondi, et puis c'est un peu allongé devant, enfin, ça a une forme assez compliquée, et en plus une forme qui diffère énormément d'une personne à l'autre, donc ça facilite pas les choses. Quand on veut mesurer, disons, la taille, en général, la taille du corps calleux, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire une coupe entre les deux hémisphères pour regarder ce qui se passe. Et là, il y a plusieurs choses qu'on peut mesurer. On peut mesurer la longueur, donc on regarde la distance entre l'avant et l'arrière. On peut mesurer l'épaisseur, mais alors, selon où on le mesure, on ne trouvera pas du tout la même chose, parce que l'avant est assez fin, et puis il y a une partie renflée à l'arrière qui est un peu plus épaisse. On peut aussi mesurer, ça a été fait aussi, l'air, c'est-à-dire la surface qui est occupée par le corps calleux sur cette coupe entre les deux hémisphères. Et selon la méthode qu'on utilise, on trouve des choses assez différentes. Globalement, comme les hommes ont un cerveau plus gros, ils ont aussi un corps calleux plus long. Donc si on regarde la distance entre l'avant et l'arrière, on trouve en général quelque chose de plus grand chez les hommes en moyenne. Et pour l'épaisseur, une fois qu'on a corrigé pour la taille du cerveau, on trouve parfois, mais pas toujours, une plus grande épaisseur chez les femmes. Mais vous voyez déjà qu'il y a plusieurs choses qu'on peut mesurer. Hein. Ça peut être des longueurs, des épaisseurs, des aires, et ça fait des différences. Un autre problème technique qui se pose, c'est comment corriger. Il y a plusieurs méthodes statistiques pour corriger pour la taille ou le poids du cerveau. Et il faut corriger, hein, puisque vous vous souvenez, comme les hommes ont un cerveau en moyenne un peu plus lourd, un peu plus gros que les femmes, eh bien, il peut y avoir des différences. Et puis, du coup, il faut, faut corriger, mais il y a plusieurs manières de le faire, et des manières de faire qui ont l'air tout à fait standard en statistique et très bien s'avèrent parfois fausses, tout simplement parce que le lien entre la taille du cerveau et la taille du corps calleux n'est peut-être pas linéaire. Et s'il n'est pas linéaire et qu'on utilise des méthodes qui supposent qu'il est linéaire, qui sont les méthodes traditionnelles en statistique, on peut déboucher sur des erreurs et arriver à des corrections qui sont tout simplement absurdes. Voilà, maintenant, donc, vous comprenez sans doute pourquoi il n'est pas si facile que ça de répondre à cette question qui avait l'air simplement être une question de mesure tout à fait élémentaire. Une autre difficulté, bien sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on veut utiliser de l'imagerie cérébrale pour des études, c'est pas facile de trouver des participants, c'est pas facile de trouver les gens qui acceptent de se faire scanner le cerveau, ça coûte cher en plus. Et donc en général, c'est sur des petits effectifs, donc il y a beaucoup de variations dû à ce problème, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors pour montrer simplement à quel point l'histoire racontée par Catherine Vidal est simplifiée, je vous cite quelques études récentes. Alors certaines ont été publiées après la conférence de Catherine Vidal, donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas les avoir citées, bien évidemment. Mais il y en a aussi, il y en a eu en continu en fait depuis 1982 jusqu'à 2013, et il y en a peut-être en 2014, j'en ai pas trouvé pour l'instant. Il y a tout un tas d'études régulièrement qui vont dans un sens ou dans l'autre. Dans celles que j'ai trouvées, la plupart des études expérimentales concluent qu'il y a effectivement une différence entre hommes et femmes. Ceci étant, dans la plupart des cas, il y a un problème statistique qui se pose parce que les chercheurs, n'ayant pas envie sans doute de revenir les mains vides avec des résultats négatifs, ont tendance à mesurer énormément de choses. Et donc quand un chercheur revient en disant « j'ai testé une trentaine d'hommes, une trentaine de femmes et j'ai trouvé une différence sur telle épaisseur du corps calleux », par exemple dans une des études il a coupé le corps calleux à une dizaine d'endroits différents pour mesurer une dizaine d'épaisseurs différentes, donc selon où on coupe on trouve pas la même chose, évidemment dans un cas comme celui-ci, si on trouve une différence même qui a l'air significative pour l'une des mesures, ça peut tout à fait être un faux positif, hein, donc il faut se méfier aussi de ces résultats. Mais voilà, je vous cite quelques articles et quelques recherches qui sont Vous aurez les références encore sur le site du podcast, du balado. Parmi celles que j'ai trouvées en premier, hein, en cherchant simplement corps calleux et sexuelle différence, sex difference et corpus callosum, puisqu'on utilise le mot latin pour dire ça. Alors il y a une, par exemple, un article de Padmini et Rao, publié en 2012, qui trouve une différence dans le sens attendu, c'est-à-dire un corps calleux plus épais chez les filles, chez des fœtus de 24 semaines. On a aussi un article paru aussi en 2012 qui est celui qui est peut-être le plus intéressant parce que c'est celui qui regroupe le plus grand échantillon. Un échantillon basé sur la base de données Oasis, c'est une base de données d'images libres qu'on peut utiliser. Et donc on a plein d'images d'IRM de cerveau. Et ils ont utilisé ça pour trouver, encore une fois, que le corps calleux des femmes était plus épais que celui des hommes après correction. Et une correction qui est statistiquement a priori bien faite, après correction et après vérification sur un échantillon indépendant. Donc on trouve encore des différences. Ça, c'est un article de 2012 paru dans Cerebral Cortex par Ardecani, Figarski et Sittis. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Vous pouvez aller voir sur le site, je ne vais pas tout citer, mais il y en a quelques autres. Et qu'est-ce qu'il y a qui vont dans l'autre sens ? Qu'est-ce qu'il y aurait comme article qui, au contraire, dirait non, il n'y a pas de différence ? Il n'y en a pas beaucoup d'expérimentaux, il y en a quelques-uns. La plupart des articles qui disent « en fait, il n'y a pas de différence » sont plutôt des méta-analyses ou des articles critiques. Voilà. Alors, ceci dit, il y a un article qui est très convaincant parce qu'il est écrit notamment par Baron Cohen, qui est un grand découvreur de différences hommes-femmes. C'est l'article publié en 2010 dans Psychoneuroendocrinologie. Pardon, je recommence, Psychoneuroendocrinologie par Chura, Lombardo, etc. Et donc, dedans, il y a aussi Baron Cohen. Qui ont étudié l'effet de l'exposition du fœtus à la testostérone sur la taille du corps calleux. Et alors, ils trouvent un petit quelque chose, mais qui n'est pas très convaincant, mais globalement, ils ne trouvent pas de différence dans l'épaisseur du corps calleux, en tout cas, en fonction de l'exposition à la testostérone. Parce qu'on pensait que le corps calleux était peut-être moins épais chez les hommes, parce que pendant la grossesse, le futur garçon étant exposé à la testostérone verrait peut-être son corps calleux du coup se développer moins vite ou moins simplement que pour les filles. Voilà, il y a comme ça tout un tas d'articles, j'en ai mis je crois une petite dizaine, un peu moins peut-être, sur le site en ne sélectionnant que des articles récents. Mais il y en a tout un tas, et donc il y a eu en continu, hein, depuis 1982, depuis ce premier article, il y a eu en continu des arguments expérimentaux pour dire que oui, l'épaisseur du corps calleux est plus important chez la femme que chez l'homme. Alors il y a aussi, je vous le disais, des articles critiques, donc je vous ai cité celui auquel a participé Baron Cohen, qui ne trouve pas de différence, c'est un premier article qui va en sens inverse. Il y a aussi l'article de 1997, paru dans Neurosciences et Biobehavioral Reviews de Bishop et Valsten, qui n'est pas un article expérimental, c'est une méta-analyse critique, où ce que développent les auteurs, et qui est tout à fait recevable aussi, c'est l'idée qu'on a trouvé des différences parce qu'on n'a pas utilisé les bonnes méthodes, et donc c'est plutôt une critique des méthodes statistiques utilisées pour la correction de la taille du cerveau qui sont ici avancées. Donc c'est plutôt ça. Voilà, donc pour résumer un peu toute cette affaire du corps calleux, on a une version tout à fait simplifiée et caricaturée ici que nous donne Catherine Vidal, où on aurait découvert par hasard un faux positif, hein, on aurait découvert une différence d'épaisseur du corps calleux avec une méthode pas très sérieuse qui consiste à étudier des cerveaux conservés dans du formol. Et puis, au miracle de la science, l'IRM arrive qui permet de faire des mesures beaucoup plus précises et grâce à l'IRM, on s'aperçoit que c'est complètement faux. C'est pas du tout ce qui s'est passé scientifiquement. Hein, ce qui s'est passé scientifiquement, encore une fois, et pour résumer, c'est qu'en 1982, il y a eu une première étude qui a effectivement annoncé ce qui est annoncé, et qu'ensuite il y a eu l'IRM et plein d'autres méthodes, parce que d'autres méthodes ont été utilisées, et qu'il y a, depuis 1982 et sans discontinuité, une controverse entre ceux qui disent « oui, il y a une différence » et ceux qui disent « non, il n'y a pas de différence », et ceux qui disent « non » le disent soit parce que ils n'en ont pas trouvé, simplement pour des raisons expérimentales, mais c'est assez rare, soit parce qu'ils font des méta-analyses critiques et qui disent « voilà, vous avez utilisé des méthodes de correction pour la taille du cerveau qui ne sont pas adaptées, et c'est à cause de ça que vous avez l'impression que le corps calleux est plus épais chez les femmes ». Voilà, donc je pense que le plus raisonnable ici, le plus esthétique, serait sans doute de suspendre son jugement en attendant plus amples informations, mais certainement pas de conclure comme Catherine Vidal qu'il est aujourd'hui prouvé qu'il n'y a pas de différence dans l'épaisseur du corps calleux. Alors ceci dit, effectivement, l'épaisseur du corps calleux n'était donc pas un bon exemple de différence homme-femme, et Catherine Vidal s'arrête là, et nous laisse supposer peut-être, laisse supposer à son auditoire qui est a priori assez conquis à sa cause, que finalement c'est la même chose pour toutes les autres choses, toutes les autres caractéristiques qu'on aurait pu trouver dans le cerveau. Or c'est faux, et pour citer une caractéristique qui n'a jamais été remise en doute pour l'instant, il y a un petit noyau dans l'hypothalamus qui s'appelle INA, I-N-A-H. En fait c'est une série de quatre petits noyaux. On s'est intéressé à ces noyaux parce qu'on s'est aperçu que chez le rat, il y a un noyau dans le chiasma préoptique qui est très différent entre les mâles et les femelles. Et on supposait que le noyau INA dans l'hypothalamus humain était un équivalent de ce noyau qu'on trouve chez le rat. Et donc il y a eu des études là-dessus qui toutes vont dans le même sens et démontrent que, là encore vous avez des références, je ne vais pas en dire beaucoup, mais vous avez quelques références parmi celles que j'ai trouvées et qui sont récentes sur le site, hein, quelques références scientifiques. Mais ce qu'on trouve régulièrement, c'est que le noyau INA3 est beaucoup plus gros chez l'homme, je crois que c'est deux fois plus gros chez l'homme que chez la femme. Donc c'est un des quatre petits noyaux qu'il y a dans l'hypothalamus. Et donc ça a été retrouvé de manière générale. C'est beaucoup cité aussi dans les études sur l'homosexualité, la transsexualité, parce qu'on s'est aperçu par exemple que les transsexuels qui étaient hommes et qui deviennent femmes, par exemple, ont en général un noyau INA3 d'une taille intermédiaire entre ce qu'on trouve typiquement chez les hommes et ce qu'on trouve typiquement chez les femmes. Donc on suppose que ça a vraiment un lien avec l'identité sexuelle, le genre même, hein, ça peut être le genre. Mais donc évidemment, alors cette histoire de noyau INA3, c'est bien établi, hein, et donc ça prouve sans aucun doute raisonnable, disons pour l'instant, à l'état actuel des connaissances, qu'il y a au moins au niveau très local, c'est un tout petit amas de cellules, hein, c'est pas quelque chose de spectaculaire qui se voit au premier coup d'œil, mais qu'au moins au niveau local, il y a quelque part dans le cerveau quelque chose qui permet de distinguer les hommes des femmes de manière globale, évidemment. Toujours garder à l'esprit la même chose, hein, on parle de moyenne, on ne parle pas de différence systématique entre hommes et femmes. Voilà, l'inconvénient, et ce pourquoi peut-être on ne parle pas tellement de ce noyau INA3, c'est qu'on ne sait pas exactement à quoi il sert, ni ce qu'il fait. Il y a des endroits dans le cerveau, on peut imaginer, qui vont simplement différer, parce que ça pourrait être par exemple le contrôle de la prostate, ou je ne sais quoi, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des différences entre hommes et femmes à ce niveau-là. On ne sait pas exactement ce que ça fait. Donc il n'y a pas de conclusion psychologique, fantastique, il n'y a rien de très sexy à raconter là-dessus. Mais quand même, ça démontre quand même, hein, qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui distingue les hommes des femmes. Et je pense que c'est pour ça que Catherine Vidal n'en parle pas de ce noyau INA3. Hein, ce n'est pas parce que ce n'est pas intéressant psychologiquement, c'est parce qu'elle serait bien embêtée d'être obligée d'admettre que quand même, il y a parfois des endroits, un sexe du cerveau, pour reprendre le titre de sa conférence TED, et qu'il y a des choses qui différencient, en moyenne en tout cas, le cerveau masculin du cerveau féminin, même si on ne sait pas exactement à quoi ça sert ce noyau INA3. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais simplement avant de vous laisser vaquer à vos occupations ordinaires, une dernière petite remarque que j'aurais voulu faire au début, et puis ça m'est un peu sorti de la tête. Parmi les petites choses qu'il fallait mettre au point, il y a aussi quelque chose que Diane Alpern, un sophisme que Diane Alpern appelle la « women have less fallacy ». Et elle met en garde contre ça. Diane Alpern, je l'avais dit, c'est l'auteur, une grande spécialiste de la question des différences cognitives entre hommes et femmes, et l'auteur d'un livre passionnant et très rigoureux sur la question. Et elle avance, elle dit souvent, dès qu'on parle de différence entre hommes et femmes, c'est interprété à la fois par les sexistes et par les féministes comme l'idée que les femmes ont moins, sont moins quelque chose que les hommes. Voilà. Alors, c'est toujours pris de manière négative pour les femmes, assez souvent. Donc, quand c'est pris de manière négative par les féministes, évidemment, ça les énerve et du coup, ils veulent réfuter ces résultats scientifiques en disant « c'est pas vrai, on n'est pas inférieur ». Et puis, c'est repris par les sexistes pour dire que si les femmes sont inférieures, puisqu'il y a une différence. Et donc, Diane Alpern dit bien « trouver une différence, ça ne veut pas dire trouver que l'un est inférieur à l'autre ». Il y a des exemples assez évidents. D'ailleurs, c'est assez. On en reparlera pour les différences cognitives. Mais par exemple, dans les différences cognitives, les deux choses peut-être les plus spectaculaires, différences les plus spectaculaires dans les compétences cognitives entre hommes et femmes, c'est que les hommes sont plus doués pour les rotations mentales, les tâches de rotation mentale dont on reparlera, et que les femmes sont plus douées pour les tâches de fluence verbale, c'est-à-dire qu'elles ont un accès en mémoire à long terme, parce que c'est pas seulement pour le vocabulaire, qui est beaucoup plus rapide et efficace que les hommes. Voilà, donc d'un côté, il y a quelque chose qui favorisera plutôt les hommes, de l'autre, quelque chose qui favoriserait plutôt les femmes, et c'est en général comme ça que ça se passe. Je vous avais parlé aussi, on a parlé de l'intelligence, et je vous ai dit, l'intelligence, au sens du QI en tout cas, est plus variable chez les hommes, ce qui fait que d'un côté, on trouve une surreprésentation masculine chez les surdoués, ce qui pourrait être à l'avantage des hommes, mais que d'un autre côté, on trouve aussi une surreprésentation masculine chez les enfants ou les adultes avec retard mental, donc c'est pas si génial que ça, d'un autre côté. Voilà, y a pas, donc il ne s'agit pas de classer et de dire qui est inférieur et qui est supérieur, quand on trouve une différence, bien évidemment. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse jusqu'à la prochaine fois. Sceptiquement vôtre, comme dirait Jean-Michel. Thank you.